Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Au lendemain des élections, un nouveau Parlement européen se dessine. Avec l'affaiblissement du PPE et des sociodémocrates, avec la poussée des nationalistes et des écologistes, il est bien difficile de dire ce soir qui prendra les postes clés des institutions européennes. On fait le point dans un instant avec Louise Baudet. En France, le RN arrive en tête, la liste de La République En Marche juste derrière et la droite accuse le coup. Le parti Les Républicains réunit son bureau politique après sa défaite, analyse d'Anne Fauquemberg. Alors que son parti est arrivé largement en tête hier, le chancelier autrichien Sebastian Kurz est renversé par le Parlement. C'est la conséquence du scandale de l'Ibiza Gate qui a fait exploser la coalition gouvernementale. Nous irons à Vienne. Et puis Renault et Fiat Chrysler discutent d'une fusion, une alliance qui pourrait donner naissance au troisième constructeur automobile mondial. Paris et Rome voient ce projet d'un bon œil. À l'issue du scrutin européen, qui a plus mobilisé que prévu, on assiste à une reconfiguration du Parlement européen. Les deux principaux groupes, le PPE et les sociodémocrates restent en tête, avec respectivement 175 et 148 sièges, mais ils sont affaiblis. La montée des nationalistes eurosceptiques et celle des écologistes créent une situation inédite et mettent fin aux alliances habituelles. Ce rééquilibrage des forces au sein de l'hémicycle devrait compliquer les discussions qui s'ouvrent sur les principaux postes à la tête des institutions européennes, à commencer par le poste de président de la Commission. Les dirigeants du PPE réclament le poste pour leur chef de file, le chrétien-démocrate allemand Manfred Weber, mais aucune famille politique n'est suffisamment forte aujourd'hui pour que son candidat s'impose de façon évidente. Les négociations s'annoncent ardues, Louise Baudet, car les États membres veulent se faire entendre.
Début des hostilités demain soir lors d'un dîner informel des 28 à Bruxelles. D'ici là, Emmanuel Macron est à la manœuvre. Il reçoit ce soir l'Espagnol Pedro Sanchez avant de rencontrer demain plusieurs autres dirigeants européens. Le but, peser sur les nominations, notamment du président de la Commission, véritable Premier ministre de l'Union. Un jeu compliqué car il implique les États membres et les eurodéputés. Selon les traités, en effet, c'est au chef d'État de proposer au Parlement un candidat, mais en tenant compte du résultat des élections européennes. Pour les conservateurs du PPE, aucun doute, leur chef de file Manfred Weber doit succéder à Jean-Claude Juncker puisqu'ils sont arrivés premiers. Mais le Bavarois pâtit du mauvais score de la droite allemande et plusieurs chefs d'État ne veulent pas de ce mode de désignation, ce qui pourrait favoriser d'autres candidats, le social-démocrate Franz Timmermans, la centriste Margrethe Vestager, voire le négociateur du Brexit Michel Barnier. Confrontation qui se double d'un autre bras de fer, cette fois entre dirigeants européens, Angela Merkel. Elle soutient son allié Manfred Weber, mais Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler. D'ici la mi-août, ils vont pourtant devoir s'accorder et convaincre une majorité d'eurodéputés.
Les eurosceptiques ont réussi une nouvelle poussée, mais elle est limitée par rapport aux prévisions. Ce qui est frappant, c'est la nette progression des écologistes et des libéraux. Les Verts allemands triomphent et en France, Europe Écologie Les Verts obtient 12 sièges. Ces derniers jours, les jeunes européens s'étaient fortement mobilisés dans la rue, marchant pour le climat. Eux qui reprochent au gouvernement leur manque d'engagement pour lutter contre le dérèglement climatique ont également exprimé cette revendication dans les urnes, Éric Bigala.
Oui Aurélie, l'électorat des Verts et des partis écologistes en général est traditionnellement toujours un peu plus jeune que celui des autres partis, notamment des partis de droite. Mais sur ce scrutin-là, la chose s'est particulièrement bien vérifiée. Et à peu près partout en Europe. En Allemagne d'abord, où les Verts font leur meilleur score avec 20,5% des suffrages. Deux sondages sortis des urnes donnent de 30 à 33% des moins de 30 ans qui ont voté pour les Grünen et seulement 13% de la même tranche d'âge qui ont voté pour la CDU d'Angela Merkel, arrivée au final quand même en première position. Tableau similaire en France d'ailleurs, quoiqu'un peu moins tranché. Europe Écologie Les Verts est le parti de prédilection des tranches d'âge 18-24 et 25-34 ans qui votent pour lui à respectivement à hauteur de 25 et 28% contre 13,4% des suffrages qui se sont portés sur les Verts hier, toutes tranches d'âge confondues. L'électorat vert est donc plus jeune, il est aussi beaucoup plus urbain que la moyenne, ça s'est vérifié en Grande-Bretagne, en Finlande, à Paris où les Verts frôlent les 20% et à Bruxelles même où se jouait non seulement l'élection européenne mais aussi un scrutin local, l'élection du Parlement bruxellois et où le parti écolo rafle une belle seconde place derrière les socialistes avec 16% des suffrages. Il est clair que les mobilisations sur le climat, animées ces dernières semaines par les lycéens, les collégiens et les étudiants, a donné aux Verts une dynamique. En Irlande, où les Verts font également un très bon score, 15% des voix, les cadres du parti s'étonnent même publiquement d'avoir observé un phénomène qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, celui de parents, voire de grands-parents, qui avouaient voter Vert, souvent pour la première fois, et ce, sous la pression de leurs enfants ou de leurs petits-enfants encore mineurs.
Éric Piégala, en France, où la participation dépasse finalement les 50%, le Rassemblement national est arrivé en tête des élections avec 23,31% des voix, légèrement devant La République En Marche à 22,41%. Le parti au pouvoir n'est donc pas sanctionné et Emmanuel Macron entend garder le cap. Le chef de l'État et le Premier ministre, Édouard Philippe, ont reçu à la mi-journée Nathalie Loiseau et Pascal Canfin à l'Élysée pour préparer les prochaines étapes. L'objectif étant toujours, Rosalie Lafarge, de constituer un nouveau groupe central au Parlement européen.
Oui, elle a perdu son pari d'arriver en tête, mais la majorité sauve les meubles avec la deuxième place. Et du côté du président comme du Premier ministre, on se trouve plutôt conforté par ces résultats. D'abord parce que La République En Marche confirme une chose pour le secrétaire d'État Cédric O, elle n'était pas un coup d'un soir.
Certains ont pu dire que La République En Marche n'était qu'une passade et que ça ne durerait pas. On voit qu'en fait, cette opposition s'installe dans le paysage politique français.
Et chez les marcheurs, comme le ministre Bruno Le Maire, on ne voit donc pas de raison de changer de cap.
Pour moi, c'est une confirmation de ce que la politique que nous menons depuis 2 ans avec le président de la République répond à l'attente de beaucoup de nos concitoyens. Il faut maintenant l'élargir vers cette question écologique au niveau national et au niveau européen.
La surprise créée par Yannick Jadot chez les Verts n'est évidemment pas passée inaperçue au gouvernement et on le concède, il va falloir faire plus pour avancer dans la transition énergétique. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Ce qui est évident, c'est que nous passons maintenant à une deuxième partie du quinquennat. Ce qui est important, en tout cas, maintenant, c'est l'action. Et l'action dans un esprit qui est à la fois fidèle au cap fixé par le président dès le début du quinquennat. Et nous allons le faire en analysant aussi ce que les Français nous disent au travers d'un scrutin comme celui-ci.
On maintient le cap et en même temps, le fameux en même temps, on veut montrer qu'on s'adapte, qu'on entend. Depuis hier soir, l'équipe d'Édouard Philippe n'hésite pas à tendre la main à Yannick Jadot. Pas sûr que l'ancien militant la saisisse, lui qui dénonce un vieux monde libéral réunissant la gauche qui a échoué, la droite qui a échoué. Et incarné aujourd'hui, selon lui, par Emmanuel Macron.
Rosalie Lafarge, La République En Marche obtient un score de 33,6% dans les Hauts-de-Seine, au détriment de la droite. Le parti Les Républicains, qui ne décroche donc que 8 sièges, s'interroge ce soir sur son avenir. Jean-François Copé juge la situation intenable au sein du parti. Il dénonce un parti verrouillé depuis 18 mois. Renaud Muselier, de son côté, souhaite la création d'une commission de rénovation de Les Républicains. Un bureau politique vient de commencer. Anne Fauquembert, comment ça se présente pour Laurent Wauquiez ?
Certains demandent la tête de Laurent Wauquiez comme Valérie Pécresse. Dès ce matin, la présidente de la région Île-de-France s'est exprimée dans les médias pour dire qu'à la place du président des Républicains, vu le contexte, eh bien elle démissionnerait. Si on agit par le seul prisme des têtes à couper, on va aller à nouveau vers les mêmes difficultés, lui réplique Annie Genevard. Pour la secrétaire générale du parti, au-delà de la personne, c'est la menace qui pèse sur l'existence même de la droite qui est préoccupante. Et puis elle ajoute qu'il n'y a pas de procédure qui permette de dessaisir Laurent Wauquiez dans les statuts. Il faudrait donc qu'il décide de lui-même de s'en aller.
Démission ou non de Laurent Wauquiez, en tout cas, la question de la ligne politique sera posée sur la table.
Si une majorité de Républicains salue la campagne de François-Xavier Bellamy, la frange libérale a beaucoup de mal à digérer la couleur un peu trop conservatrice de cette campagne. Valérie Pécresse appelle ainsi à une refondation. Il ne faut pas avoir une stratégie de rétrécissement, mais une stratégie d'élargissement, explique-t-elle. Un eurodéputé sortant, gaulliste, canal historique comme il se définit, disait aussi tout à l'heure être en indigestion de cette civilisation judéo-chrétienne brandie à chaque meeting. J'ai avalé des couleuvres pendant 6 mois, tout ça pour ça. Une défaite violente, un fait politique majeur avec cette question. Est-il encore possible de construire une troisième voie entre le Rassemblement National et La République En Marche? Et si oui, qui pour l'incarner? Annie Genevard voit un espace possible, mais à ce stade, pouvoir l'occuper relève de la méthode Coué.
Anne Fauquembert, la France Insoumise n'obtient que 6 sièges. C'est une claque pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Claque bien plus sévère encore pour Génération. La liste de Benoît Hamon n'a obtenu que 3,27% des voix. L'ancien socialiste, candidat déjà malheureux à la présidentielle de 2017, annonce qu'il va prendre du recul. Zoom maintenant sur le Royaume-Uni, pris dans la tourmente du Brexit. La première ministre britannique Theresa May déplore des résultats très décevants pour son parti conservateur. Il est relégué à la 5e place avec près de 9% des voix, loin derrière le parti du Brexit de l'europhobe Nigel Farage, environ 32% des voix. C'est très décevant pour les conservateurs. Nous retrouvons à Londres Antoine Gignoux.
À l'exception de Londres et de l'Écosse, il est en tête partout, Nigel Farage, avec systématiquement plus de 30% des voix. Le chef de file des populistes compte bien en profiter. Nous demandons, dit-il, à faire partie de l'équipe qui va négocier le Brexit. Pas question de faire confiance aux conservateurs, ni à Boris Johnson, son ancien allié avec lequel il a mené la campagne pour sortir de l'Union européenne et qui est maintenant le candidat favori des Britanniques dans la course à la succession de Theresa May, ni à personne d'autre. Nigel Farage explique d'ailleurs qu'il est prêt à toute éventualité et promet, en cas de report du Brexit au-delà du 31 octobre, qu'il réclamera et remportera des élections législatives anticipées. Conséquence immédiate, à droite, les conservateurs, qui n'ont obtenu que 9% des voix, se positionnent déjà pour une sortie rapide de l'Union européenne. Deux anciens ministres, Owen Paterson et John Redwood, et les chefs de file des conservateurs eurosceptiques, comme Jacob Rees-Mogg, plaident pour une sortie radicale, quitte à revenir aux règles de l'OMC. En face, les travaillistes, eux aussi, sont forcés de réagir en prenant le contre-pied. John McDonnell, l'un des principaux cadres du parti, se dit pour la première fois favorable à un deuxième référendum. Et même Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, qui a depuis 3 ans soigneusement évité de choisir son camp, le reconnaît du bout des lèvres. Pour sortir de la crise, il va falloir, dit-il, se tourner vers le peuple.
En Autriche, le chancelier conservateur Sebastian Kurz vacille. Une motion de censure a été approuvée par une majorité de députés autrichiens aujourd'hui contre son gouvernement. C'est une première depuis 1945 en Autriche. Il devra donc quitter son poste. C'est la conséquence de l'Ibiza-Gate, le nom donné au scandale provoqué par la diffusion d'une vidéo compromettante pour le FPE, le parti d'extrême droite qui a dû quitter la coalition avec les conservateurs. Après l'extrême droite, c'est donc le chancelier qui tombe au lendemain pourtant d'une nette victoire de son parti aux élections européennes. Les précisions d'Isorias à Vienne.
C'est un énième rebondissement en Autriche. Le départ annoncé du chancelier conservateur Sebastian Kurz et de son gouvernement composé de ministres conservateurs et d'experts qui devaient assurer l'intérim jusqu'aux prochaines élections législatives anticipées prévues en septembre. Mais les députés en ont décidé autrement en votant à une majorité une motion de censure. En fait, c'est l'alliance entre les sociaux-démocrates et l'extrême droite qui a fait basculer le vote et donc permis de renverser le gouvernement de Sebastian Kurz. C'est évidemment un revers pour ce dernier, mais pas un coup fatal, loin de là. D'abord parce que son parti est arrivé largement en tête aux élections européennes hier. Ensuite parce que Sebastian Kurz lui-même reste très populaire auprès des Autrichiens, dont une majorité souhaitait son maintien au poste de chancelier selon un récent sondage. Désormais, un nouveau gouvernement de transition devrait rapidement être mis en place.
Toujours en Autriche, une série d'actes de vandalisme ont été commis sur des portraits de risques de l'Holocauste exposé à Vienne. 3 fois depuis leur mise en place début mai, des portraits de victimes des crimes nazis accrochés le long d'une des artères principales de la capitale ont subi des dégradations. Le chef de l'État, Alexander Van der Bellen, se déclare profondément inquiet de ces atteintes à la mémoire des victimes du nazisme. Un Français a été condamné à mort aujourd'hui en Irak pour appartenance au groupe État islamique. Le même verdict avait été prononcé contre 3 autres Français jugés pour avoir rejoint l'organisation. Paris dit mener les démarches nécessaires pour rappeler à Bagdad son opposition à la peine de mort. Toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, souligne la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Fiat Chrysler et Renault confirment discuter d'une fusion. Cela faisait des années que le constructeur italo-américain cherchait un partenaire. Après un échec aux États-Unis et des négociations qui n'ont pas abouti avec Peugeot, il espère s'entendre avec Renault. Cette alliance pourrait donner naissance à un mastodonte pesant plus de 30 milliards d'euros en bourse. Le projet a été accueilli plutôt favorablement par les gouvernements français et italiens. La correspondance d'Olivier Tosseri à Rome.
Souverainisme économique ou sauvetage des emplois en Italie grâce à une entreprise étrangère, face à ce dilemme, Matteo Salvini a choisi. Il salue le rapprochement en cours entre le groupe franco-nippon Renault-Nissan et le groupe italo-américain Fiat Chrysler. Le leader de la Ligue et l'homme fort du gouvernement italien, malgré sa francophobie affichée, ne s'oppose pas à un futur accord.
Si Fiat grandit, c'est une bonne nouvelle pour l'Italie et pour les Italiens.
Brillante, rivolta al futuro.
J'espère qu'il s'agit d'une opération brillante, tournée vers le futur, qui protège les emplois dans notre pays et conduit à la naissance d'un géant européen de l'automobile. J'espère qu'un accord qui permette la croissance de ce secteur déterminant pour notre pays aboutisse.
La presse transalpine suit avec autant d'intérêt et accueille favorablement un accord qui ferait naître un colosse mondial du secteur automobile et relancerait surtout un groupe Fiat qui accuse un fort ralentissement de ses ventes après la disparition de son emblématique patron Sergio Marchionne. C'est bien la première fois que Matteo Salvini serait d'accord avec la France sur un dossier économique sans dresser a priori des barricades contre l'invasion de la péninsule par les entreprises françaises.
À Lyon, où l'explosion d'un colis piégé a fait 13 blessés légers vendredi, un étudiant algérien de 24 ans a été interpellé et placé en garde à vue, comme trois membres de sa famille. Gérard Collomb, le maire de Lyon, revient sur les conditions de cette interpellation.
C'était une interpellation qui s'était faite à la descente d'un bus. J'ai appris ensuite que les policiers ne voulaient pas l'interpeller dans son appartement ou dans sa maison de manière à ne pas risquer d'être victime d'une explosion au TATP. Et donc l'interpellation s'est faite, je dirais, de manière extrêmement maîtrisée. Lorsqu'il est descendu du bus, trois voitures de police sont arrivées et il a été immédiatement arrêté et mis hors d'état de nuire. Nous avons appris ensuite qu'il y avait deux autres interpellations de garde vue et c'est grâce au système de vidéoprotection de la ville qui a été donc regardé, visionné ce week-end par nos agents qu'on a pu retrouver la trace de cet homme.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en ce moment à Lyon. Il fait le point sur l'enquête avec le directeur central de la police judiciaire. Le projet de loi pour la restauration de Notre-Dame de Paris est maintenant examiné par le Sénat et l'opposition, emmenée par le parti Les Républicains, compte bien donner du fil à retordre à l'exécutif. C'est ainsi que la semaine dernière, la commission de la culture du Sénat a supprimé l'article 9 du projet de loi. C'est l'article le plus contesté pour accélérer le chantier dans l'espoir de tenir le délai de 5 ans fixé par le président. L'article 9 habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance et à déroger aux règles en matière de préservation du patrimoine, de construction, d'urbanisme et de commande publique. Le sénateur Les Républicains Alain Schmitz, rapporteur du projet de loi à la Chambre haute, explique la décision de la Commission.
C'est une décision que nous avons prise à une très large majorité au sein de la Commission parce qu'il nous est apparu que le chantier portant sur la restauration de Notre-Dame de Paris se devait d'être exemplaire et qu'en aucun cas l'État ne devait s'affranchir des règles qu'il a lui-même édicté, tous les codes, qu'il s'agisse de l'urbanisme, de l'environnement, du patrimoine ou des marchés publics. Et donc l'État a toute possibilité de mener à bien ce chantier, d'autant que en matière de patrimoine, on parle toujours du temps long du patrimoine, et que même les 5 années telles que souhaitées par le président de la République ne sont pas un obstacle au respect des règles édictées par l'État. N'oublions pas que parce que classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le monde entier qui aura les yeux fixés sur ce chantier.
Alain Schmitz, rapporteur du projet de loi sur la restauration de Notre-Dame au Sénat, répondait à Catherine Dutu. L'association des victimes de la Dépakine vient d'être reçue au ministère de la Santé. L'APESAC dénonce des indemnisations au rabais pour les familles. Plus de 1600 demandes d'indemnisation ont été déposées par des mamans qui avaient pris ce médicament anti-épileptique pendant leur grossesse sans en connaître tous les effets secondaires. Et leurs enfants souffrent d'autisme ou de graves malformations. Pour la première fois, l'ONIAM, l'organisme public chargé d'évaluer les dossiers, vient d'offrir une compensation d'1,3 million d'euros à une famille. Mais c'est une exception, Tara Schlegel, et l'association de victimes tient à le souligner.
Sur la vingtaine de dossiers examinés, les propositions sont très insuffisantes, accuse Marine Martin, qui préside l'association des victimes de la Dépakine. Pour elle, les diagnostics, élaborés pourtant par des centres ressources autisme et des pédopsychiatres, sont trop souvent écartés par les experts du collège de l'ONIAM.
Ils font pas bien leur travail parce qu'ils respectent pas les diagnostics qui ont été posés et que les familles ont eu du mal à obtenir. Des fois, elles ont parcouru des centaines de kilomètres et au final, on leur dit non, c'est pas reconnu, c'est non avéré. Moi, j'ai reçu l'appel d'une maman, dont la fille a quand même des gros problèmes visuels puisqu'elle est aveugle sur les côtés et à qui on va proposer 92 000 euros. Elle était un peu en pleurs, quoi.
La violence ressentie par les proches est donc très forte quand la pathologie des enfants est niée. Deux autres familles se sont vues proposer autour de 30 000 euros. En moyenne, c'est plutôt 70, 80 000, soit 10 fois moins que ce qu'on attendrait à l'étranger, affirme l'un des avocats des victimes. Cela dit, le comité de
l'ONIAM, qui intervient après les experts, n'a pas forcément clos les dossiers et doit souvent encore évaluer si les enfants ont besoin d'une aide à vie, ne serait-ce que quelques heures par semaine, ce qui ferait grimper la facture et conduit à un autre problème de taille. En janvier dernier, Sanofi, qui fabrique la dépakine, a annoncé qu'il n'abonderait pas le fonds d'indemnisation. L'État devra donc à terme se retourner contre le laboratoire, ce qui prendra probablement des années.
Tara Schlegel, et puis on vient d'apprendre le décès de François Vaillargans. Membre de l'Académie française, il avait reçu le prix Goncourt en 2005 pour Trois jours chez ma mère et auparavant le prix Renaudot pour La démence du boxeur, deux romans parus chez Grasset. François Vaillargans, également réalisateur, avait 78 ans. Demain mardi, le temps sera généralement instable avec des averses, des orages et aussi des éclaircies. Sur le littoral méditerranéen, du vent mais pas de pluie. Les températures resteront douces le matin entre 9 et 16 degrés. Elles atteindront 15 à 19 l'après-midi jusqu'à 26 dans le Var. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.